réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce lundi 6 juin 2016. Et on va écouter Le silence de Bon Matin et toute cette semaine en compagnie d'Alain Corbin, le grand historien qui vient de sortir chez Albin Michel un beau livre sur l'histoire du silence, de la Renaissance à nos jours. Dans un instant, le premier épisode. Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Et puis en deuxième partie, je recevrai Philippe Garnier, qui est un auteur, un journaliste, mais aujourd'hui il vient pour parler de la traduction qu'il vient de faire d'un roman célèbre, assez culte, celui de Robert Stone, La ligne de fuite. C'est le titre en français, c'est bien sûr une traduction de Dog Soldiers, et ça sort chez L'Olivier. Mais tout d'abord, on écoute le silence, on essaye de trouver tous les sens qu'il y a autour du silence. C'est parti, un autre jour est possible. Écoutez le silence en compagnie d'Alain Corbin. Et si pour commencer notre série Alain Corbin, on partait de la radio, des silences à la radio, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion quand soudain un silence s'invite dans une émission de radio?
C'est extrêmement rare. Je crois qu'aujourd'hui, le silence à la radio, pas plus qu'au cinéma d'ailleurs, il en est de même au cinéma, est extrêmement rare. Le risque du silence dans une émission de radio, c'est que l'auditeur ait l'impression qu'il y a une panne, ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et donc, il ne peut pas de ce fait goûter le silence qu'on lui offre.
Pour lui, c'est un imprévu, forcément.
Oui, je pense, oui. C'est rare, vraiment c'est très rare. Je n'ai pas d'émotion particulière parce que je n'ai pas de souvenir particulier d'avoir goûté un silence à la radio. Il faut vraiment le provoquer et l'annoncer. Parce que s'il n'est pas annoncé, je crois qu'il ne sera pas perçu comme un silence dans toute sa richesse.
Et pourtant, on peut faire la différence entre un silence mis en scène, contextualisé à la radio, et le silence qui vient annoncer une rupture.
Oui, oui, sans doute. Vous êtes un très grand professionnel, et ce que je ne suis pas dans le domaine de la radio. Mais en ce qui concerne le cinéma, ce qui a été dit, c'est que lorsque le parlant est arrivé, et dans les 20-30 années qui ont suivi, les cinéastes attachaient une grande importance au silence et savaient le faire goûter, et les auditeurs étaient prêts à le recevoir. Et paraît-il, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de silence au cinéma, autre qu'une rupture, quoi. Mais il n'y a plus de richesse du silence au cinéma, m'a-t-on dit. Il y a eu une revue spécialisée qui était consacrée au silence au cinéma, et c'était sa conclusion.
Et pourtant, Alain Corbin, vous dites que il y a eu plus de choses dites dans le cinéma muet, en passant donc par le silence, que lorsque le son est intervenu.
Oui, ça a été critiqué, cette idée. C'est-à-dire que les spécialistes du cinéma muet font remarquer que le cinéma muet n'était pas véritablement muet. D'abord, il y avait souvent accompagnement de piano, par exemple, ou de musique. Deuxièmement, les corps avaient une rhétorique exagérée. Et que de ce fait, le silence se trouvait rompu. Mais il y a des grands cris de silence dans le cinéma muet. J'en prendrai deux. Celui de Faiore, je sais pas, je prononce mal, dans King Kong. Son cri de frayeur en face de King Kong est resté.
Et vous dites que c'est le cri le plus silencieux de l'histoire du cinéma.
Oui. Oui, puisque c'est du cinéma muet. C'est assez évident. Mais tous ces cris de terreur et de peur dans les films de Murnau, des films d'horreur, en fait, de terreur, c'est la même chose. Il y avait sans doute une exagération. Et quand on regarde de Dreyer, le Jeanne d'Arc de Dreyer, le visage est sans cesse présent, le visage dans le silence est expressif, est très expressif. Donc le silence, là, se faisait très expressif dans le cinéma, mais évidemment.
Parce que les corps parlaient à la place.
Voilà. Voilà, les corps parlaient à la place et c'est encore dans Jeanne d'Arc de Dreyer que c'est peut-être le plus continu, hein, sinon le plus fort, si vous voulez. Mais c'est vrai de tous ces films muets. Alors les films de Charlie Chaplin sont remplis de silence, en fait. Hein.
Mais à partir du parlant, à quoi renvoyait le silence, d'après vous ?
Ah, il est renvoyé à des choses extrêmement subtiles, des choses extrêmement fines, des bruits, en fait. Ce silence était fait de chuintements, de...
Vous pensez à Bergman ou pas forcément?
D'interruptions, c'est à l'observation de certains êtres en particulier. Les enfants sont porteurs de silence et les enfants de ce cinéma étaient particulièrement porteurs de silence. Ainsi que les animaux, certains animaux, le chat, est un porteur de silence, la vache aussi, à sa manière. Les insectes qui font de tout petits bruits, les metteurs en scène étaient très, très friands de tous ces bruits. Et on voyait, et ça existe toujours, les gens recueillir dans la forêt, dans la campagne, des petits bruits. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse plus trop ni les téléspectateurs, ni les spectateurs du cinéma, me semble-t-il.
Je vous ai parlé de Bergman, des films de Bergman, parce que vous développez toute une théorie sur le silence qui renvoie à l'intérieur de soi.
Oui. Ah ben, Bergman, moi, ça a été un coup de foudre. Je me souviens de des premiers films que j'ai vus, c'était Le Septième Sceau, je crois, en 1958. Vous voyez, c'est pas jeune. Mais je suis resté deux ou trois fois, parce qu'on pouvait rester dans le cinéma dans ce temps-là. Et ça a été un choc. Mais c'est peut-être pas d'ailleurs le plus silencieux, puisque vous me posez la question, c'est des films de Bergman. Hein.
Et vous pensez au silence, à cris et chuchotements ou aux fraises sauvages ?
Non, ben là, je pensais aux fraises sauvages parce que ce retour sur soi, sur son passé, est étouffé de réminiscences, de chocs mémoriels, mais aussi de silence du même coup. C'est un vieux professeur qui se remémore sa vie.
Et d'après vous, Alain Corbin, pourquoi aujourd'hui le cinéma a peur du silence ?
Parce qu'on est dans un monde d'instantanéité et que le temps a changé, en fait. On vit un autre temps depuis quelques décennies, sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Le monde de lenteur, qui était le monde du 19e siècle, c'était un monde de lenteur, le monde de lenteur s'est estompé au profit d'une accélération permanente. Déjà, le 19e siècle avait vu s'accélérer la vitesse de 60 km/h à 100, 110, 120, et ensuite le 20e de 120 au supersonique, etc. Mais du même coup, le temps de vie avec ses informations permanentes, c'est instantané. Tout ça a modifié l'appréciation du temps. Et l'appréciation du temps joue sur l'appréciation du silence, puisque le silence implique un temps ralenti. Et c'est ça qui devient insupportable pour celui qui n'en a pas l'habitude.
Silence en tourne, vous connaissez bien sûr cette expression.
Ben oui, silence en tourne, mais ça c'est justement pour... Bon, c'est une gamme d'injonctions ça, hein. Silence hôpital, silence dans les ateliers. Jusqu'en 1910, quelqu'un m'a envoyé une affiche d'une usine de jouets de 1910 dans laquelle il était dit « Faites silence ». « Faites silence » était destiné aux ouvriers parce que c'est en bavardant qu'on fait du mauvais travail.
Et puis, pour parler de la peinture et terminer ce premier épisode avec des images, j'ai tout de suite compris quand vous avez écrit que devant une toile de Denis Hopper... Ouais. Le silence est présent, omniprésent. Oui. Mais je pourrais pas l'expliquer parce que, après tout, toutes les toiles sont silencieuses.
Non. Non, il y a des toiles de catastrophes, de fin du monde, de déluge, etc., qui ne sont pas silencieuses. Au XVIIe siècle, elles sont très souvent silencieuses. Rembrandt est très souvent silencieux. Le retour de l'enfant prodigue de Rembrandt est à ce propos-là très fort. Mais à notre époque, il est évident que Hopper n'est sans cesse un peintre du silence.
Pourquoi ?
Silence entre les êtres. Mm-hmm. C'est peut-être le plus évident que le silence entre les êtres. Lorsque vous voyez un homme qui est à sa machine à écrire et la femme qui regarde par la fenêtre, si vous voulez, un silence d'incommunicabilité. Le silence de la chambre. La femme dans sa chambre d'hôtel... Seul, regardant les vitres. Enfin, ça, il y a un silence permanent et un silence extrêmement intense chez Hopper, mais il n'est pas le seul.
À demain, Alain Corbin.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et ce matin, mon invité est le journaliste et écrivain Philippe Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Garnier, auteur de la nouvelle traduction du roman culte de Robert Stone, Dog Soldiers, La ligne de fuite, donc en français, qui vient d'être édité par les éditions de l'Olivier. En 1971, Robert Stone part au Vietnam pour être correspondant de guerre pour le journal britannique The Guardian. Et inspiré par ce qu'il va voir là-bas, par ce qu'il va vivre là-bas, il écrira en 1974 ce roman devenu culte, un roman d'époque, comme on dit souvent très vite. Mais là, le terme se justifie, on trouve l'état de l'Amérique à cette période précise dans ce roman, c'est-à-dire la débâcle au Vietnam, la contre-culture avec ses promesses et ses limites, et la drogue, beaucoup de drogue, un tableau noir et hallucinant du rêve américain transformé en cauchemar par la guerre. C'est un roman qui va tout de suite obtenir un prix, Philippe Garnier, et qui va avoir tout de suite son importance. Hein.
Oui, qui a eu le National Book Award, et qui a vraiment, enfin, c'est un des livres de Stone qui a le mieux marché, parce que son premier, The Hall of Mirrors, avait été remarqué, mais n'avait pas été un succès public du tout. Et là, je crois qu'il était carrément en phase avec ce qui se passait en Amérique au début des années 70. C'est-à-dire la guerre qui revient à la maison, quoi, en fait, un peu. C'est-à-dire aussi la guerre qui était dans les rues, avec les manifestations, avec les trucs anti-Vietnam, enfin, anti-guerre au Vietnam, etc. Sauf qu'il le fait d'une manière complètement, je dirais presque hallucinatoire. Et en particulier, alors bon, il y a beaucoup de... Vous avez dit qu'il avait été correspondant de guerre pour le Guardian. Il a passé exactement 2 mois là-bas. Et je dis pas que c'était pas dangereux, mais disons que c'était à la période où on était en la vietnamisation de la guerre. Et il se passait pas grand-chose. Enfin, il y avait pas beaucoup de combats et tout. Je pense que dans le roman, on sent un peu... Espèce de culpabilité, disons, vis-à-vis de ses collègues ou je ne sais quoi. Moi, en 84, je l'ai rencontré, Robert Stone et tout, on en avait discuté de ça, d'ailleurs.
Alors, justement, qu'est-ce qu'il a dit
Justement, il m'a dit, je voulais pas passer pour... je veux dire, j'étais pas Michael Hare, enfin, j'étais pas le Baroudeur, etc. Il dit, le truc le plus marquant que j'ai vu au Vietnam, c'était un concert de rock avec un groupe vietnamien qui jouait du Grateful Dead. Il dit, et c'est complètement... c'est à la fois complètement ridicule, et mais c'était exactement le genre de truc qu'on voyait au Vietnam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pouvait qui était inimaginable. On s'attendait à voir tout, y compris des éléphants qui se font bombarder ou des choses comme ça. Enfin, choses dont il parle dans le livre.
Alors, Philippe Garnier, s'il fallait parler de l'histoire de la ligne de fuite, de quoi s'agit-il ?
Bon, ça commence à Saïgon. Ça commence un peu comme on pense un peu à Graham Greene, il y a l'hôtel intercontinental, il y a les Américains qui sont derrière les lignes, enfin je veux dire les gens qui sont pas au combat, il y a tout ce genre de trucs et très vite on s'aperçoit que le type qui a lui passé beaucoup plus de temps au Vietnam que Robert Stone est un peu en bout de course et a décidé de faire un coup. Et je pense que quand on était au Vietnam à cette époque-là, la drogue était très très présente et tout, les trafics en tout genre. Et je pense que c'était assez difficile de rester en dehors de ce genre de truc. Et comme il avait un copain dans la marine marchande qui fait passer lui des sacs de marijuana, un truc comme ça. Enfin, disons qu'il ramène 3 kilos d'héroïne aux États-Unis. Ce qui, évidemment, pose tous les problèmes moraux et tout, puisqu'il, lui, est un progressiste. Enfin, bon, c'est un écrivain. Il a fait une pièce à succès qui, justement, critiquait l'armée, en plus, etc. Et il y a des personnages dans le roman qui, justement, relèvent un peu l'ironie de tout ça, quoi. L'ironie et un peu la tragédie de tout ça. C'est-à-dire les gens qui ont un peu abdiqué leurs principes, etc. Et le fait que le type qui lui fait remarquer est un agent fédéral véreux, c'est une double ironie. Ouais. Quoi. Et en fait, l'ironie est un truc très très important chez Stone, qui a tendance à être un écrivain sérieux, même profond, mais qui, à cause de ses thèmes, etc., a toujours cette espèce de bord du rasoir, un peu, dès qu'on commence à se prendre un peu la tête, etc., tac, c'est sapé par des trucs très très drôles, en fait. La seule distinction par rapport à ses autres livres, c'est qu'il y a à la fois une satire du parler hippie, par exemple, j'ai eu beaucoup de prises de tête avec les éditeurs, les préparateurs de textes et les éditeurs de textes, parce que ils étaient absolument contre tout, de laisser le moindre mot anglais. Mais comme Stone se moque un peu déjà d'un parler qui est devenu cliché, etc., comme far out ou des choses comme ça. Et alors, ça dit peut-être rien à quelqu'un de qui a 20 ans maintenant, mais je veux dire, en 68, etc., même à Paris, tout le monde savait ce que c'était que far out ou je sais pas quoi, enfin tout le tout ces expressions comme ça, et je pense qu'il fallait les laisser, et donc je les ai laissées après avoir un peu bataillé, quoi, disons.
On va en parler de, justement de cette
traduction. Et il y a aussi pas simplement le truc du parler hippie, mais il y a aussi le parler de la guerre, ce que évidemment Michael Hare avait fait magistralement dans Putain de mort, dans enfin ça s'appelait Dispatches en anglais, où il montrait déjà que chaque guerre s'invente un langage pour, bon, c'est une façon de pas être là, en fait. Et il y a une expression en particulier, c'est there it is. There it is, c'était vraiment, enfin, moi, j'étais aux États-Unis en 70-71, there it is, c'était, bon, c'était vraiment l'expression importée de Saigon, etc. Et c'est très difficile à rendre, en fait. There it is, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, en français,
Alors, comment vous êtes débrouillé, justement?
C'est ce que c'est, ou, etc. Je pense que je l'ai aussi laissé, mais je le doublais, c'est-à-dire qu'il y avait aussi quand même en français. Mais ça me paraît, alors bon, on peut dire que c'est une abdication en tant que traducteur, mais je pense que c'est aussi essentiel d'avoir le goût de la langue, enfin, utiliser l'original, quoi, si vous voulez. Pareil pour le style. Stone a un côté un peu, très répétitif. Il travaille sur les rythmes, il travaille sur l'espèce de... C'est pas un cantatoire comme John Didion, ou c'est plus un truc... ça a un côté un peu bourrin, enfin un peu lourd, mais qui me semblait aussi, c'était essentiel d'en laisser au moins une partie de cette lourdeur, de ces répétitions, etc. Alors encore une fois, contre les éditeurs de traduction qui, justement, eux, essayent d'alléger et de rendre les choses plus lisibles. Mais moi, je pense que le premier travail d'un traducteur, c'est au moins de donner la meilleure impression de ce que c'est, de ce qu'est l'original. Bon, alors, évidemment, il faut aussi rester lisible. Donc, ouais. C'est une espèce de côte mal taillée. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin du dialogue avec les éditeurs, justement. Mais en même temps, il y a toujours tendance à réécrire dans l'élégant. Enfin, en rendant le texte plus élégant, plus familier surtout. Et en fait, on arrive à faire de la littérature française. On ramène toujours du côté de la littérature française. On n'a jamais vraiment une idée claire de à quoi ressemble ce bouquin, enfin, dans son original, quoi.
Voilà. Olivier Cohen, l'éditeur de L'Olivier, explique qu'il avait déjà, à ses débuts, tenté de traduire le Dog Soldiers de Robert Stone, qu'il était vraiment pas du tout content du rendu de cette première traduction. C'était pour Gallimard, je crois que c'était pour les...
Non, c'était pour Mazarine.
C'était pour Mazarine?
Ouais, il était secrétaire de rédaction là-bas, et c'était le premier ouais. bouquin qu'on lui laissait faire lui-même. Il était apprenti, et c'est une très belle histoire d'édition, je pense. Parce que c'est même pas de la cuisine, ce qui n'intéresse que les gens comme nous. Mais comme il était débutant, il a acheté le roman sur les conseils de Tom Luddy, d'ailleurs, qui est devenu le producteur de Coppola, etc., et qui lui avait recommandé le livre. Et donc il a acheté les droits, mais l'agent n'avait pas très confiance en lui, puisque c'était un débutant, donc lui a donné des délais assez courts, quoi. Et il a donné le bouquin à traduire, comme c'était difficile, et en plus, justement, dans l'époque, quoi, disons, l'époque hippie, machin, il y avait qu'un type sur la place de Paris, etc. Et je me suis oublié comment il s'appelle, je crois que c'est Robert, enfin bon, c'était le type qui était c'est la haute pointure, quoi. Et malheureusement, c'était un bon traducteur, mais c'était aussi un alcoolique. Donc, il est un peu tombé dans un trou. Au bout d'un an, Cohen, il avait toujours pas de traduction. Et il l'a un peu dépisté. Il est venu chez lui. Et l'autre lui a jeté carrément 100 pages, les 100 premières pages à la tête, en disant « Démerde-toi avec ta putain de traduction, etc. » Et le pauvre Olivier, dont l'anglais à l'époque, disons, n'était pas ce qu'il est maintenant, a été obligé de se débrouiller. Il a toujours eu un peu un sentiment de culpabilité. Et non seulement là, il essaye de se racheter... 20 ans ou 25 ans après, mais il a témoigné d'une fidélité à Stone qui était vraiment, en plus qui allait contre sa nature, parce que Olivier Cohen, c'est pas le genre de type qui aime publier des livres auxquels il n'a pas beaucoup d'espoir de vente, disons.
Alors justement, avec le recul, diriez-vous que Robert Stone, quand il écrit ce roman, il est dans l'époque, ça on l'a dit, mais est-ce qu'il est sous influence d'un Joseph Conrad, ou plutôt il a envie d'imiter pour mieux se moquer de Jacques Kerouac? C'est quoi les influences littéraires qu'il revendique, que vous avez senti en traduisant ce texte, Philippe Garnier?
C'est amusant que vous disiez pour se moquer de Jacques Kerouac, parce que en fait, et à chaque fois, on lui posait la question, est-ce que vous avez été marqué par On the Road, sur la route et tout. Il a dit, je dois être le seul être au monde qui s'est fait c'est sa mère qui lui a donné le bouquin. Et il dit, je crois être unique au monde, parce qu'évidemment, c'était le livre de la rébellion des générations, évidemment, et qu'un parent lui a... Enfin, il faut dire qu'il n'a pas eu une mère très, très typique, parce que, d'abord, elle l'a élevé seule, et non seulement ça, mais elle était schizophrène, en plus, même si elle ne le savait pas. Et donc, il y a eu de longues périodes où il vivait dans les hospices, ou à l'Armée du Salut. Il y a un épisode flashback et tout dans le roman d'ailleurs, et Stone a souvent été seul, il a même été à l'orphelinat pendant 4 ans, et il disait mon seul ami c'était la radio, et vous savez c'était ce genre de môme qui se racontait des histoires, il allait dans Central Park et il se faisait des histoires à la Sam Spade ou à un détective privé, etc. Et à la fois, comme à la radio, il décrivait la scène et faisait les dialogues. Il dit, ça a été mon entraînement, parce qu'il n'a pas été à l'école du tout. Enfin, je veux dire, il a été dans la marine marchande. Mmh. Et j'ai dit qu'au Vietnam, il n'avait pas vu beaucoup de combats. Mais par exemple, il a vu le bombardement de Port Saïd par la flotte française, ce qui est un truc absolument dément. Enfin, quand on y pense, il l'a vu de près, quoi, s'il était dans la rade. Donc, il a eu vraiment une formation très bizarre. Et évidemment, quand il commence à être écrivain, il a une bourse pour aller à Stanford. Et à Stanford, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ken Casey et il y a le LSD. Et évidemment, ça explique aussi pourquoi il a mis 6 ans à écrire son premier roman et pourquoi ça y a pris 10 ans pour entreprendre un autre, quoi. Donc, il y a eu pas mal de dissipation. Voilà.
Et aujourd'hui, aux États-Unis, ce livre a toujours une importance?
C'est un livre qui a été longtemps oublié. Je pense que c'est aussi un livre qui va renaître un jour, peut-être avec un Olivier Cohen derrière, ou je ne sais pas. Mais je pense que c'est un truc. Je pense que c'est son heure est venue à ce livre. Mais le livre a eu du succès.
À sa sortie, bien sûr. Et même le grand prix littéraire américain. Merci beaucoup, Philippe Garnier, d'être passé ce matin. Je rappelle que le roman de Robert Stone, édité par l'Olivier, a pour titre La ligne de fuite, et que c'est vous qui avez assuré la traduction. Merci beaucoup.